BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur.
On se retrouve comme chaque jour pour vous aider à gérer au mieux votre patrimoine. Tous nos experts seront sur le pont d'ici quelques minutes. Mais pour commencer ce rendez-vous, un survol de l'actualité. Et c'est ce matin avec Claire Chicaglini.
BFM Business, l'info éco.
L'article 7 de la réforme des retraites exclut du menu des discussions à Matignon. Pas question de remettre donc sur la table le recul à 64 ans avec les syndicats, indique ce matin le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, mais aussi le président du Modem, François Bayrou. Hier, Elisabeth Borne a proposé de discuter avec l'intersyndicale. Un dialogue qui va de pair avec la poursuite du mouvement. Une nouvelle journée d'action est prévue le 6 avril prochain. Nouvelle dégradation du moral des Français en mars. L'indice de confiance des ménages baisse encore d'un point, comme en février. Il s'établit à 81 points désormais, se rapprochant de son niveau historique le plus faible. Publication de l'INSEE ce matin. Après l'Ukraine, l'Europe devient la cible, toute l'Europe devient la cible de la cyberguerre menée par la Russie. Moscou vise notamment ses voisins, à savoir la Pologne, les Pays-Baltes et la Scandinavie. Les domaines de l'aviation, de l'énergie, de la santé et de l'administration publique sont des objets d'attaque privilégiés. C'est le résultat du rapport de la menace cyber de Thales, publié aujourd'hui. Décision attendue dans la journée au tribunal de commerce de Grenoble concernant l'enseigne Gosport. Les juges diront si Michel Oyon peut ou non rester à la tête de l'entreprise. Le parquet et les représentants du personnel réclament le départ de l'homme d'affaires bordelais. Gosport a été placé en redressement judiciaire en janvier. La marque compte plus de 2100 salariés en France. Pas de fusion nucléaire prévue à Bruxelles. L'atome divise. Il sera encore au cœur des discussions aujourd'hui entre les États membres et le Parlement de Strasbourg. Les 27 doivent se mettre d'accord sur le texte abordant les énergies renouvelables. La France plaide depuis des mois pour que le nucléaire soit étiqueté vert, car décarboné. Un point de vue partagé par une douzaine de pays, mais rejeté par une dizaine d'autres, parmi eux l'Allemagne.
Merci beaucoup Claire, on se retrouve tout à l'heure à 11h pour suivre cette actualité économique et nous tout de suite on se connecte au marché actions.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.
Pour retrouver comme chaque matin, une heure après l'ouverture, Antoine Larigauderie qui nous attend sur sa mezzanine de cette tour de contrôle du CAC chez Euronext à la Défense. Bonjour Antoine, que se dit-on sur les tables ce
matin ?
Bonjour
Cédric. On sort un petit peu de l'immobilisme, hein, faut bien le reconnaître. Hier, on n'a pas fait grand-chose, on sentait Wall Street très très indécis. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on sentait que les marchés avaient retrouvé un petit peu d'appétit pour le risque. Le ton reste quand même positif, hein, on est un petit peu tranquillisé par les récents développements de l'actualité bancaire. On se dit que l'incendie est circonscrit pour le moment. Mais on sentait pas vraiment d'appétit pour le risque parce que parallèlement, il y avait quand même pas mal de déséquilibre et en particulier une forte hausse des taux sur le marché obligataire, sur le 10 ans. Et ça, évidemment, ça a fait mettre de côté tout un tas de valeurs, les valeurs de croissance, hein, que ce soit la tech, le luxe, etc. Donc des ajustements techniques un petit peu partout qui ont provoqué un tout petit peu de défiance et un manque d'entrain des marchés. On a pu le voir d'ailleurs sur les chiffres des volumes hier, hein, qui étaient très faibles du côté des 2 milliards d'euros d'actions négociées sur le CAC 40. Et là, ce matin, quand même, ça va mieux avec des futurs américains mieux orientés. Et donc un indice parisien CAC 40 qui gagne 0,68%. On monte à 7136 points. Alors, un autre indicateur très étonnant, c'est le VIX, l'indice de la volatilité des marchés américains, qui repasse mais alors largement sous les 20 points. On est à 19,30. On revient au niveau bien avant la faillite d'SBB. Ça veut dire que globalement, sur les indicateurs de volatilité, cette crise bancaire, on l'a mise de côté et on se consacre à la suite. Alors ça peut paraître assez étonnant, mais au vu de tout ce qui se passe sur les marchés, on a quand même des signes d'apaisement un petit peu partout, même l'once d'or fin qui recule. loin sous les 2 000 $ qu'elle avait atteint et même dépassé il y a quelques jours. L'Eurostock 50 lui avance de 0,63%, puis on a un DAX à Francfort qui grimpe de 0,33%. Alors on revient sur les valeurs de croissance, je vous le disais, notamment singulièrement les valeurs techno. On a ST Microelectronics qui signe la plus forte hausse du CAC 40 à plus 4,48%, 46,51 €. On a Soitec aussi qui signe une des plus fortes hausses du SBF 120 dans le domaine des semi-conducteurs là aussi. À noter aussi les valeurs liées aux matières premières, on en parle depuis deux jours. On a très forte reprise sur le cours des matières premières minières et des métaux, ainsi que du pétrole, bien sûr, qui est au-delà des 78 $ et qui les dépasse maintenant largement sur le Brent, 78,50 €. On a ArcelorMittal qui gagne 1,55% à 26,82 €. Et puis des valeurs un petit peu plus cycliques comme Schneider Electric qui gagne 0,96% à 147,48 €. Puis à noter le secteur bancaire qui poursuit sa reprise, Société Générale plus 1%, 19,96 €. Et on a BNP Paribas qui signe une hausse de 0,92 € à 52,45 €. À la baisse, ce sont des valeurs plutôt défensives. Orange moins 0,37 € à 10,81 €. On a Vivendi moins 0,35 € à 9,14 € et Unibail-Rodamco Westfield moins 0,7% 45,64 €. Deux cas particuliers, Orpea qui poursuit une série de séances très difficiles. Le titre perd maintenant 7,2% à 1,80 €. Et puis Atos, apparemment les négociations avec Airbus se passent mal pour une éventuelle cession de sa filiale cybersécurité. Airbus trouve le prix vraiment trop élevé et donc Atos recule de 6,4% à 12,04 €. Le CAC 40 plus 0,7 7137 points et l'euro 1,0835. Cédric,
merci beaucoup. Antoine Larigauderi qui chaque matin nous permet de prendre le pouls de cette première heure de cotation. Nous, on reste connectés au marché actions. On explore tout de suite la cote parisienne.
BFM Business, BFM Patrimoine, Pépite Zépipo.
Avec Mathias Desmarais qui nous attend chez Odo BHF. Bonjour Mathias.
Bonjour Cédric.
Merci d'être au rendez-vous. Vous nous proposez Seb. Alors effectivement, le nom Seb est bien évidemment, je l'imagine, connu de nos auditeurs, de nos téléspectateurs. Malgré tout, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'étendue des activités de Seb ?
Oui, tout à fait. Donc Seb, c'est le leader mondial en fait du petit équipement domestique, avec une contribution au chiffre d'affaires consolidé de 61% qui vient du petit électroménager, de 30% pour les articles culinaires. Et géographiquement, le groupe est très diversifié, notamment dans les pays émergents, et qui représentent aujourd'hui 45% du chiffre d'affaires, notamment en Asie.
Alors, quels sont les points positifs que vous trouvez au groupe ?
Alors, il y en a deux. Tout d'abord, il y a le retour progressif à partir du T2 sur une croissance organique plus normative. Il faut savoir que depuis 2010, le groupe affiche une croissance organique annuelle moyenne de plus de 5%. Le groupe bénéficiera en effet de son exposition à la Chine qui se réouvre, c'est 26% du chiffre d'affaires, et aussi de la reprise de l'activité professionnelle. Le deuxième élément, c'est qu'on a eu une très forte baisse des marges opérationnelles l'année dernière, 7,8%, c'était une baisse de plus de 200 points de base, mais on aura cette année un effet mix prix favorable qui va perdurer. On a le plan d'économie de coûts qui a été mis en place l'année dernière, et aussi on a une détente des prix du fret maritime et des matières premières qui soutiendront le rebond des marges, et pour nous l'objectif d'un retour à 10% à moyen terme semble très clairement atteignable aujourd'hui.
Voilà donc quelques idées à avoir sur ce titre. Après, il faut regarder aussi un petit peu le parcours, la valorisation.
Alors, au niveau du parcours, le groupe a pas mal souffert l'année dernière, aussi pour des problématiques de génération de cash flow disponible, qui va complètement se résorber cette année, puisqu'on attend environ 400 millions d'euros de cash flow disponible, ce qui va permettre au groupe de se désendetter, également de regarder des opérations de croissance externe éventuelle. Et en termes de valorisation, ça reste très modeste selon nous. On est à peu près à 10 fois le résultat opérationnel avec un free cash flow yield de l'ordre de 7%, ce qui, au regard des comparables, semble quand même relativement faible.
Est-ce que tout va bien ou est-ce qu'il y a, comme souvent d'ailleurs dans les dossiers, un petit bémol, un petit point d'attention à avoir ?
Alors, il y a deux points d'attention selon nous. Eu égard à son positionnement très international, évidemment, une évolution des devises, notamment le dollar, peut avoir un impact positif ou négatif sur les résultats. Et on est dans un secteur qui est quand même très concurrentiel. Donc, c'est quelque chose également à monitorer. Pour l'instant, le track record du groupe est très bon, mais ça reste deux points d'attention, on va dire.
Merci beaucoup pour cet éclairage donc sur le groupe SEB. Recommandation d'achat, donc objectif de cours 127 euros. Mathias Démara depuis O2B Chef. Bonne séance sur le marché, Mathias. Le CAC 40 qui est à 7140 points et qui progresse de 0,73%.
BFM Business, BFM Patrimoine, le point macro.
C'est Christopher Dembick que l'on retrouve en duplex. Bonjour Christopher.
Bonjour Cédric.
Merci d'être avec nous pour Saxo Bank. Alors dans les jours qui viennent, il va y avoir plusieurs indicateurs sur les prix à la consommation un peu partout en zone euro avec la synthèse en fin de semaine. Qu'est-ce qu'il faut en attendre ?
Alors, grosso modo, on sait bien que l'inflation en zone euro, elle a atteint un pic, hein, ce qui est plutôt positif, puisque lorsqu'on regarde au niveau des autres pays européens, c'est pas toujours le cas, hein, notamment si vous regardez par exemple la Pologne, le pic d'inflation n'est pas encore atteint, donc c'est plutôt pratique. Mais le vrai sujet finalement par rapport à ce suivi d'inflation qui va être publié du côté de la zone euro, donc vendredi, c'est tout simplement de savoir quelle va être la vitesse de dépréciation, à quel niveau finalement on va se retrouver. Le problème, il est toujours un peu constant pour la BCE, c'est-à-dire qu'on a un niveau d'inflation qui reste dans tous les cas douloureusement élevé, et surtout vous avez entre les différents pays européens un différentiel d'inflation qui peut être parfois extrêmement élevé. Donc dans tous les cas, certainement qu'on va être sur un positionnement où toujours la Banque Centrale Européenne va être plutôt au quiche de mon point de vue, sachant qu'en plus les problématiques sur le stress bancaire, même s'ils sont toujours bien sûr présents, ne sont pas non plus la priorité du côté de la BCE. Donc de mon point de vue, on est toujours sur plutôt des hausses de taux qui vont perdurer à court moyen terme. Alors donc pas au mois d'avril, hein, il n'y a pas de réunion, mais au mois de mai vraisemblablement, une nouvelle hausse de taux de 50 points de base ne me paraît pas du tout aberrant au regard du niveau d'inflation, au regard des problématiques sur l'inflation, par exemple aussi du côté des prêts alimentaires, les fameux profits qui alimentent l'inflation qui ont été mentionnés aussi par la BCE.
Alors dans le panorama statistique, on a aussi un chiffre franco-français, mais bon, on le regarde quand même avec intérêt, d'autant que les seuils sont pas très réjouissants. C'est le moral des ménages qui s'est dégradé en mars. Alors c'est une dégradation légère, mais enfin, on est sur les quasi plus bas enregistrés.
Alors oui, on est effectivement très éloigné de la moyenne de long terme qui est basée à 100. Enfin, ça, c'est indéniablement le cas. Le problème n'est pas tant effectivement le dernier chiffre. On a un léger tassement, mais plutôt le fait qu'on soit depuis de très longs mois très éloigné de cette moyenne de long terme. Alors malgré tout, quand on regarde dans le détail, il y a des éléments qui sont plutôt favorables. Par exemple, sur les anticipations en termes d'évolution du chômage, aujourd'hui, les Français, ce qui peut être assez paradoxal, hein, vu la situation économique, les Français considèrent qu'il n'y a pas un risque de hausse du chômage qui soit extrêmement important, c'est très minoritaire, donc c'est plutôt positif sur cet aspect-là. Alors bien évidemment, dans cette enquête, on a aussi des éléments auxquels on s'attendait, à savoir par exemple la perception que les prix ne cessent d'augmenter et vont continuer d'augmenter à court et à moyen terme. Il suffit de regarder les prix alimentaires, ce que je mentionnais précédemment, on est effectivement sur cette tendance, mais j'oserais dire que ce n'est pas un scénario qui soit complètement négatif quand on regarde le détail de l'enquête, puisqu'il y a effectivement des points qui sont plutôt positifs, simplement, finalement, les ménages français, comme les autres ménages européens, font face à l'inflation, ce qui veut dire bien évidemment la perception en termes d'hausse des prix, elle perdure. La capacité d'épargner, qui est un autre élément qui était présent dans l'enquête, bien évidemment, elle se réduit, ce qui est assez logique dans ce contexte-là, mais finalement, ce n'est pas un décrochage aussi important qu'on aurait pu l'anticiper. Et la réalité, c'est que l'absence de ce décrochage aussi important qu'on aurait pu l'anticiper, c'est tout simplement lié au fait qu'on a eu aussi énormément de surplus d'épargne, même si c'est localisé plutôt sur les hauts revenus, du fait de la Covid, du fait des mesures de soutien. Donc ça permet en France, comme dans d'autres pays européens, de limiter l'impact négatif. Donc je voudrais dire, c'est pas réjouissant, mais c'est pas un décrochage. Et donc c'est plutôt important. Et très certainement, si la crise énergétique avait été plus aiguë, indéniablement, on aurait probablement des chiffres bien plus médiocres. Donc je voudrais dire, c'est plutôt positif dans un contexte qui est assez dégradé, qui n'est pas le plus idéal à cet égard.
Bon, ça, ce sont pour les statistiques. Et puis, on a tout ce qui touche au stress bancaire. Il est à prendre en compte aussi conjoncturellement.
Alors oui, il y a deux aspects. Sur le stress bancaire, c'est notamment le marché des CDS. On a eu plusieurs informations qui montrent qu'effectivement, le marché des CDS, donc la couverture contre le risque, c'est un marché qui permet de juger du stress bancaire, mais il faut bien avoir en tête que c'est un marché qui est très peu liquide. Donc automatiquement, lorsque vous avez des prises de position, ça peut entraîner des mouvements très importants, et c'est vraisemblablement ce qu'on avait pu voir au niveau de Deutsche Bank en fin de semaine dernière. Ensuite, du point de vue macroéconomique, qui est le point certainement plus important, avant le stress bancaire, on a des chiffres qui nous montrent que déjà le crédit ralentissait énormément. Et dans des économies qui sont très endettées, on a besoin d'avoir du crédit entrant dans l'économie. Bien évidemment, ce qui va se passer dans les prochains mois, c'est que les banques, alors elles vont avoir, en termes d'éléments de langage, elles vont certainement nous dire qu'elles vont avoir plus de ciblage dans le crédit, mais ça veut dire concrètement qu'il y aura moins de crédit entrant dans l'économie, donc une croissance économique vraisemblablement plus faible. Même si chez Saxo, notre scénario de base, c'est pas une récession, on sait très bien en revanche que moins de liquidité, moins de crédit dans l'économie, surtout si ça chute très rapidement, c'est généralement quand même un facteur récessionniste assez important. Donc on va surveiller vraiment ça de très très près, et notamment du côté de la zone euro où le décrochage est assez important. Et la dernière fois qu'on a vu un tel décrochage, c'était quand même une période assez noire du point de vue de la conjoncture. Mais encore une fois, il faut attendre, on n'a pas suffisamment de données. On s'attend juste à ce que les banques réagissent de toujours de la même manière, à savoir on restreint le crédit lorsqu'on fait face à des complications.
Merci beaucoup. Christopher Dembick, qui nous accompagnait pour Saxo Bank. Très bonne journée, Christopher. Le marché parisien, lui, est à 7138 points. Il progresse de 0,71%.
BFM Business, BFM Patrimoine, le club IMO.
Le club IMO qui réunit autour de la table Barbara Kirali, bonjour Barbara, bonjour pour Cédric. Le moniteur. Sylvain Lévy-Valenzi pour Radio IMO, bonjour Sylvain.
Bonjour Cédric.
Et Marie Cœur de Roy, chaque jour à mes côtés pour évoquer ce monde immobilier. On commence avec presque une question traditionnelle et c'est vous qui vous y collez Barbara. Le point marché, c'est ça?
C'est toujours moi qui annonce la mauvaise nouvelle en premier. Ça chute toujours. On a eu des chiffres tout frais ce matin qui ont été dévoilé par le ministère du Logement. Les permis de construire octroyés sont en recul de 5% sur un an. Entre mars 2022 et février 2023, on est à 461 200 permis de construire octroyés. Et sur les mises en chantier, donc ça chute encore plus, on est à 6,3% de moins sur un an, toujours entre mars 2022 et février 2023, à un petit peu plus de 367 000 mises en chantier. Concrètement, ça pèse sur les mises en vente concrètes, donc les logements qui sont proposés à la vente aux particuliers. Il y en a eu un peu plus de 121 000 l'an passé aux particuliers et donc ça fait grimper les prix. On était à 5 727 euros du mètre carré en Ile-de-France, 4 607 euros du mètre carré en région. J'ai fait mon petit calcul pour un 60 mètres carrés. Entre 2019 et 2022, vous rajoutez 35 000 euros en Ile-de-France et 37 000 euros en région pour vous payer un 60 mètres carrés, donc deux chambres dans le neuf.
En trois ans,
c'est beaucoup. Moi, mon salaire, il n'a pas augmenté d'autant.
Je confirme.
Clairement, ça a un impact donc sur les prix, sur la capacité des Français à se loger. Ça a aussi un impact sur les ressources humaines. On en parle peu.
Ouais, c'est ça, parce que nous, on enfile gentiment des chiffres qu'on étale.
D'ailleurs, il y a des gens.
Voilà, c'est ça.
Il y a des gens. Et donc, en termes de ressources humaines, parce que c'est Caroline Giton chez nous qui a fait un petit papier là-dessus. Elle a contacté les boîtes de recrutement spécialisées dans l'immobilier. Et les boîtes disent que oui, effectivement, ils lèvent le pied sur l'embauche, surtout côté montage opération. S'ils trouvent un responsable technique excellent ou un développeur foncier qui a le bon réseau, évidemment, ils vont le recruter parce que le promoteur immobilier, lui, veut toujours sourcer les terrains pour pouvoir développer ses projets.
Et puis, ça reste du temps long quand même.
Maintenant, c'est vrai que priorité à la mobilité interne. Donc, on nous donne des petits exemples. Une agence à Nice qui ferme. On propose aux gens d'aller bosser à Aix-en-Provence. C'est quand même pas la porte à côté. Mais bon, voilà. C'est un peu Maubeuge. Ça reste la Méditerranée. Mais bon, quand même. Enfin, c'est un peu long, quand même, tous les jours de faire les trajets. Il y a quand même des créneaux qui fonctionnent mieux que d'autres. Quand on a un promoteur qui s'est spécialisé sur les résidences gérées, bon, ben là, on voit qu'il y a quand même une certaine appétence du marché. Ça passe mieux. Donc là, il y a moins de tension sur les ressources humaines. Et puis surtout, j'espère qu'on en reparlera un petit peu plus tard, les promoteurs qui se développent sur la rénovation et restructuration, eux aussi limitent leur impact sur le marché et donc continuent à recruter.
Bon, n'empêche que Sylvain, il y a donc des victimes RH, il y a aussi des victimes acheteurs, c'est les primo.
Il y a des victimes acheteurs et puis il y a aussi des liquidations judiciaires de promoteurs. Ouais,
bien sûr, oui.
Carré Neuf a demandé sa liquidation à Angers. Carré Neuf, c'est un promoteur qui est l'archétype du promoteur régional. Alors, il y a des raisons autres là-dessus, mais c'est surtout la raison qui est les cash flows baissent comme neige au soleil, puisque les besoins en BFR sont très élevés en promotion immobilière, et que la ressource est compliquée. Non, ce qui est le phénomène que je constate, je pense que tu partages mon idée, c'est un effondrement de la demande. En fait, la demande, c'est un effondrement de la demande solvable. Qui crée un mécanisme de report sur le bâti ancien et donc forcément augmente les prix, ce qui n'est pas vraiment une bonne nouvelle. On est très attentif au rapport du CNR qui va être livré là normalement au printemps, même si on ne se fait pas d'illusions. Il y a un tassement quand même des transactions immobilières dans les principales régions françaises. On espère effectivement une baisse des prix avec une régulation du marché. Mais comme le disait très justement Barbara, il y a des gens derrière, il y a des gens qui bossent, mais il y a aussi des gens qui utilisent, qui vivent. Et tout ça, à l'instar du rapport de la Fondation Abbé Pierre, ne favorise pas du tout la fluidité du logement.
Non, et c'est un vrai sujet. Enfin, moi, je trouve que ce que dit Sylvain, on en parle assez régulièrement, mais peut-être pas assez. C'est l'impact et le fait que c'est une chaîne, en fait, l'immobilier, et qu'effectivement, quand on peut pas acheter dans le neuf, bah, on se rabat sur l'ancien. Le fait est que oui, la baisse des prix a commencé, mais peut-être pas dans les proportions qu'on attendait et qui se justifieraient compte tenu de la hausse des taux d'intérêt. Il y a souvent une corrélation. Il y a évidemment souvent un décalage entre le début de la hausse des taux d'intérêt et de la baisse des prix. Mais enfin, là, ça fait déjà, un an, hein. C'était le printemps 2022 que les taux ont commencé à augmenter. Il y a des villes où ça baisse toujours pas quand même, hein, parce qu'on dit que la baisse commence. Oui. Mais il y a des villes où ça baisse toujours pas. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a quand même une demande qui est particulièrement contrainte sur le neuf. Et que, il y a une vraie problématique à ce niveau-là.
C'est-à-dire que les gens ont quand même encore envie d'acheter.
Alors, il faudra trouver pour les promoteurs immobiliers des relais de croissance. On a introduit le sujet de la réhabilitation. À une époque, on pouvait appeler ça du marchand de biens, on pouvait appeler ça de la promotion-rénovation. En tout cas, une chose est sûre, c'est que sur le bâti ancien, il y a, sur la rénovation et la réhabilitation, de vrais sujets. Il y a eu pas mal d'orientations qui ont été prises avec des projets emblématiques. 330 logements qui ont été faits réhabilités, par exemple, par RFH à Bordeaux. C'est la résidence du lac. L'ancienne Banque de France à Vichy qui a été totalement rénovée avec mixité d'usage. Le projet de réhabilitation de 85 appartements au sein d'un ancien couvent à Guingamp, c'est un promoteur immobilier. Il y a eu une réunion publique pour la gare de Perrache à Lyon, sur laquelle il y a une reconfiguration complète du quartier qui est formidable. Mais on peut dire, par exemple, en banlieue, c'est 162 logements qui ont été réhabilités avec une étiquette A. C'est un vrai projet avec une mixité d'usage. La possibilité pour du bâti, notamment du bâti dont le foncier appartient aux collectivités publiques qui n'ont pas les moyens clairement de transformer, ce sont la possibilité de donner à bail des bails emphytéotiques qui permettent donc d'avoir un temps long et éventuellement, s'il y a un OFS qui se crée, la possibilité de proposer au mètre carré.
On rappelle, par office exemple, foncier solidaire.
Voilà, office foncier solidaire, du bail réel et solidaire qui permet aussi de fluidifier. Mais tout ça, en fait, reste extrêmement marginal. Il y a quand même un signal du marché, c'est que toute la promotion immobilière s'empare du sujet. De plus en plus. Je prends Idéal Group qui a créé une filiale qui s'appelle Caractère. Il y a la deuxième édition du Salon Ville et Patrimoine à Bordeaux, au Palais de la Bourse, sur uniquement la réhabilitation et la réversibilité. Il y a un bâtiment emblématique qui a été rénové, qui m'a fait beaucoup rire. J'ai envoyé d'ailleurs une photo, je ne sais pas si on peut le voir, c'est Eric Donnel, patron de Groupama Immobilier, qui a rénové le bâtiment de l'AMF, Place de la Bourse, et qui avait fait, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette pub incroyable, le bâtiment le plus nul de Paris. Auriez-vous le courage d'occuper le bâtiment?
C'est un autre sujet, c'est le low-tech. C'est oui. Le fait de mettre moins de tech dans l'immobilier. Alors, parce que ça a une empreinte carbone, la tech, et on a tendance à pas tellement la mesurer aujourd'hui.
Je suis d'accord.
Et du coup, il y a deux sujets. Il y a la rénovation et il y a aussi faire des immeubles qui sont plus sobres. Donc il y a Nexity qui a un partenariat avec un architecte, c'est Baumschlager, c'est des architectes autrichiens. Ils font l'immeuble 22-26. En gros, tu es à 22 degrés, 26 degrés, sans clim, sans rien, juste par la conception architecturale de l'immeuble. Donc il y a cette tendance-là aussi, c'est-à-dire faire de la réno, faire du low-tech, parce absolument. Que ça a une empreinte carbone
je
très forte.
Je pense que ça s'intègre, c'est-à-dire que dans la trajectoire zéro carbone, absolument raison, dans la trajectoire zéro carbone, le relais de croissance pour le promoteur, c'est de travailler sur le bâti ancien, justement avec ces options. Et ces options, finalement, on peut les chiffrer en huit parties. Simplicité des usages des bâtiments, donc ça va rendre beaucoup plus lisible le bâti ancien. L'économie des ressources et la facilité de la maintenance, qui coûte un bras en général, et donc aujourd'hui, avec la techno, on arrive assez bien à la mesurer. La réhabilitation et la sobriété énergétique est le vrai enjeu. Le réemploi des matériaux in situ, avec une économie circulaire. L'approvisionnement local, la réversibilité des usages et la réparabilité des systèmes techniques de fonctionnement. Des immeubles, en fait, ça s'intègre. La trajectoire low-tech pour les bâtiments, c'est aussi un relais de croissance pour des promoteurs qui voient finalement se transformer un peu leur métier dans une certaine mesure. Et aujourd'hui, les collectivités locales, encore une fois, ont absolument besoin des promoteurs pour revitaliser soit leur cœur de ville, soit les villes moyennes qui disposent aujourd'hui de fonciers extrêmement intéressants.
C'est un relais de croissance, mais on voit bien qu'ils y vont quand même à tâtons, parce que ces nouvelles activités qui sont développées, elles développent des logements, et franchement, la production, elle est marginale au regard de la production totale des promoteurs. On voit bien qu'ils sont en train de trouver le modèle, parce qu'ils nous disent tous que faire de la réno, de la réhab, c'est plus de risques. C'est plus de risques, surtout qu'ils ne savent pas forcément évaluer, parce que globalement... t'achètes sans conditions suspensives quand t'achètes du foncier en mettant en friche, tu dois travailler avec la mairie pour changer le PLU.
T'as pas de problème de permis parce que le bâtiment existe déjà.
Ça dépend ce que tu vas en faire. Ça dépend ce que tu vas faire, parce que si tu le désosses complètement, il faut redéposer un permis de construire derrière,
Je suis d'accord.
Il faut que le maire soit d'accord.
Et puis, est-ce qu'on sait vraiment exactement ce qu'on trouve une fois qu'on déshabille l'immeuble?
C'est le problème du coût. Aujourd'hui, la transformation des bâtiments, c'est un coût nettement plus élevé. Détruire, déconstruire pour reconstruire, c'est très facile. Ça coûte beaucoup moins cher. Effectivement, le problème, c'est le prix de sortie. Donc, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, ils ne peuvent pas travailler avec des marges négatives. Donc ça veut dire que le bâti ancien, quand il va être transformé même en mixité d'usage, il va coûter beaucoup plus cher, il va attirer une clientèle, il va encore plus peut-être, pour les classes d'actifs résidentielles, gentrifier les villes. C'est le vrai sujet aujourd'hui du jour. C'est pour ça que moi je suis très partisan des collectivités locales qui engagent un mouvement de reconquête des villes à travers une maîtrise des coûts et des prix de sortie qui vont être, à mon avis, extrêmement attentistes là-dessus.
Et du coup, ça demande... un max d'innovation?
Ça demande un max d'innovation, ça demande surtout de travailler différemment, d'avoir plus de transversalité sur les métiers achats, les métiers conception, les métiers évaluation des risques. Ça demande d'avoir des ressources humaines différentes. Il faut être capable d'avoir des gens en interne qui sachent comment est-ce qu'on dépollue un foncier. Ça ne veut pas forcément dire que c'est le promoteur qui va dépolluer. Non, il peut faire appel à un prestataire, mais il faut que le promoteur sache quoi demander au prestataire. Donc, il faut savoir évaluer. Ça veut dire qu'il faut aussi... savoir monter les dossiers administratifs, tout ce qui est autorité environnementale. Quand on intervient sur une friche et que la friche elle a commencé à être renaturée, il faut pouvoir faire une évaluation de ce qu'il y a sur la friche en termes de faune et de flore. Et donc ça, c'est pareil, c'est des compétences qu'il faut avoir en interne, qu'on peut déléguer, l'activité, mais il faut savoir quoi demander. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de se mettre sur le créneau. Et donc ça, c'est vrai, t'as raison, ce sera des vrais relais de croissance, t'as raison aussi. En attendant, c'est marginal. Et moi, ce que j'observe, c'est que quand même, les promoteurs immobiliers, ils ont pour la plupart tendance à dérouler leur activité comme ils savent le faire, c'est-à-dire faire du neuf. Alors, ils le font sur des terrains qui sont déjà artificialisés parce que les PLU ne leur permettent pas forcément toujours d'aller sur des terres non artificialisées, des terres agricoles. Donc, en ça, on peut dire que leur métier commence à changer, mais c'est vrai que la grosse réhabilitation, la grosse rénovation, comme moi, j'aimerais le voir émerger, on ne l'observe pas encore.
On en est effectivement extrêmement loin. Juste un point, c'est que on avait souvent dans la presse, on a dit les métiers de promoteurs, c'est compliqué, ils sont en train de changer radicalement. Moi, j'y crois pas une seconde. Je pense que le métier de promoteur continuera à exister peut-être différemment, avec des pratiques intégrées différentes. Je pense qu'on va assister certainement à un effet pendulaire qui va relancer la politique du logement, parce que je pense que c'est juste pas possible.
Enfin, c'est surtout qu'on va avoir beaucoup moins de promoteurs là. Il y en a plein qui vont faire faillite, il y aura quelques gros.
Faut souhaiter qu'ils fassent pas tout. On leur souhaite beaucoup de courage, parce que le problème, Cédric, c'est que on est d'accord que pour reconquérir en fait un stock, il faut une moyenne entre 3 et 4 ans, voire 5 ans. L'État aujourd'hui permet pas de le reconstituer, hein, c'est clair.
Allez, on marque une petite pause, comme chaque semaine dans ces échanges du Club Immo. Un détour par les marchés grâce à notre trader Nicolas Dose, et puis on revient au cœur de ces questions immobilières.
BFM Business, l'émission 100% placement. BFM Patrimoine, Cédric Decoeur.
Chaque matin à 10h30, deux traders vous ouvrent leurs écrans pour lire le marché du jour. On retrouve Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Et Gilles Santacreux chez Boursicoté.com. Bonjour Gilles, merci à tous les deux d'être présents au rendez-vous. Gilles, dites-nous un petit peu comment vous travaillez l'indice ce matin. Quelle réflexion vous inspire ce CAC 40 qui reprend quelques couleurs?
Un contexte très hésitant, ce que l'on peut constater donc depuis l'impulsion baissière que nous avons connue en fin de semaine dernière, c'est qu'on tente des rebonds en début de séance et puis que, passé le, je dirais, les premiers instants, on revient sur des niveaux inférieurs et en fait on manque réellement de conviction pour nourrir ce qui pourrait être un rebond qui pourrait se transformer en reprise haussière. Donc on est en plus dans une zone d'attente. Demain on aura les chiffres du PIB US, on aura les PCE vendredi, et dans ce contexte, malgré, je dirais, une inquiétude qui semble s'estomper sur le secteur bancaire, bon, malgré ce qui s'est passé hier, eh bien, on revient ici sur une configuration un peu plus neutre, sans réelle information directionnelle. Et pour l'instant, on est vraiment dans cette zone d'attente. On peut le voir d'ailleurs ce matin, lorsque l'on regarde un petit peu le CAC 40, on est sur une hausse proche des 1%. Quand je regardais, on avait seulement 3 valeurs dans le rouge, et à part STMicro et Publicis qui sortent un petit peu du lot, on a une hausse qui est assez homogène au niveau des titres, et ce qui nous indique qu'il n'y a pas énormément de conviction. On a le secteur bancaire qui est plutôt dans le haut du classement, le luxe aussi, mais à part ça, on n'a pas grand-chose. Alors au niveau des niveaux du CAC 40, on tourne autour de la zone des 7110 points, qui est un petit peu une zone pivot actuellement. Tant que l'on est au-dessus, on peut commencer à reparler d'une conviction haussière. Encore une fois, sans énormément de force et de dynamique. On pourrait repasser haussier au-delà des 7200 points. Les niveaux d'alerte, ils s'éloignent un petit peu. On a un premier niveau d'alerte à 7015 points. On repasserait avec une forte conviction baissière sous 6950. Mais globalement, là, on est dans une zone assez neutre et qui nous donne vraiment très peu d'informations au niveau directionnel. Donc il va falloir être vigilant avec notamment les statistiques qui interviendront demain et vendredi. Mais là, globalement, on est dans un contexte où les volumes sont assez faibles et donc on est vraiment dans une zone où il va falloir travailler les petits écarts et chercher les débuts de tendance si un mouvement directionnel se mettait en place.
Voilà la lecture proposée par Gilles. Jean-Louis, chez Perceval, comment voyez-vous les choses sur ce marché ?
Il n'y a pas beaucoup de visibilité, Cédric. Toutefois, ce matin, on a démarré, en effet, tout doucement. Il n'y avait rien. Et j'étais prêt au départ à jouer la zone 7120-7170. Mais quand je voyais justement ce marché qui montait tout doucement, point par point, ça sentait un peu le piège. J'ai annulé mes ventes. Donc, je suis toujours vendeur de vol, on va dire globalement, mais là, en intraday, je me suis dit, je vais attendre le signal technique, voilà. Et en effet, là, ça vient d'accélérer il y a quelques secondes à 7182 sur le futur. Alors, c'est vrai, il n'y a pas de conviction gigantesque derrière tout cela. J'ai l'impression que les dernières nouvelles que nous avons eues sur le secteur bancaire avec la fraude aux dividendes, c'est du réchauffé. Enfin, immédiatement hier après-midi, moi j'ai dit, mais je suis très dubitatif là-dessus. Et j'ai l'impression que ça crée un petit contre-pied, si vous voulez. Il y en a qui se sont dit bon, on va vendre, etc. Et puis du coup, ils se font avoir. Hier, on a fini à 22h, on n'était pas très bien, on était en bas plutôt. Bon, on a remonté, mais c'était pas terrible. Et là, ce matin, on a ouvert tout de suite en reprise, tout de suite dans des bonnes conditions, dans le calme absolu, avec une volatilité implicite qui est passée de 18 à 16,4. Non, oui, une baisse de vol. On est plutôt, on va dire, du bon côté au-dessus de 7115-120. On est plutôt pas, on s'éloigne, on va dire, de la zone d'attraction baissière, de la nécessité de venir vendre peut-être pour des options, des puts vendus si certains l'ont fait. Et globalement, on n'avance pas. C'est vrai qu'il n'y a aucune nouvelle qui permette de se dire on a réglé un problème. Il y a zéro. Alors, ce qui émerge un petit peu, c'est qu'on a l'impression, si vous voulez, que les investisseurs jouent un scénario idéal où les hausses des taux seraient terminées. On envisage même des baisses de taux aux États-Unis, ce qui fait que le dollar en pâtit un petit peu. Enfin, vous voyez, ça, c'est pas qu'il en pâtit beaucoup, mais c'est que l'euro, ça le dope un petit peu, on va dire. Et les taux, tout irait bien dans un environnement où on jugulerait l'inflation et donc on éviterait la récession. Voilà. C'est ce que ce matin, manifestement, il joue. Et on avait ce genre de commentaires chez les analystes, chez les économistes, où il y aurait potentiellement un scénario idéal qui se profilerait.
Voilà donc quelques idées à avoir en tête graphiquement. Merci à tous les deux. Donc Jean-Louis Cussac, Perceval Finance Conseil, et Gilles Santacreux qui, depuis boursicoté.com, nous accompagne ce matin. On se retrouve à 11h30. Gilles, très bonne séance. En attendant, ce marché parisien qui est à 7161 points, en hausse d'1,03%.
BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique.
Nicolas Dose, bonjour.
Bonjour.
5 banques perquisitionnées hier à Paris et à La Défense. BNP Paribas et sa filiale Exane, Société Générale, Natixis et HSBC, toutes dans le viseur du fisc. Pourquoi ?
Le parquet national financier les soupçonne de fraude fiscale, d'avoir permis à des investisseurs étrangers qui ne résident pas sur notre territoire d'échapper à l'impôt sur les dividendes qu'ils perçoivent sur des actions qu'ils détiennent d'entreprises françaises cotées. C'est une vaste opération qui est préparée depuis des mois. Ça a mobilisé quand même 170 enquêteurs, avocats, magistrats, procureurs hier, notamment même des Allemands qui étaient venus du parquet de Cologne, parce qu'il y a des affaires similaires qui se déroulent dans d'autres pays, notamment en Allemagne. Et donc, on a 5 enquêtes préliminaires qui sont ouvertes depuis décembre 2021 sur cette histoire.
Au cœur de ce contournement de l'impôt sur les dividendes, il y a une pratique dite du cum-cum.
C'est ça.
De quoi il s'agit ?
Eh bien, il s'agit d'une pratique qui consiste pour un investisseur étranger à prêter ses actions à une banque française quelques jours avant le versement du dividende et le prélèvement à la source automatique de l'impôt sur les dividendes. La banque, à ce moment-là, c'est elle qui les a dans les mains, les actions, et elle n'est pas soumise à ce prélèvement automatique. Dès que l'opération fiscale a eu lieu, eh bien, l'investisseur étranger reprend la pleine possession de ses titres. Et il a évité la casse fisc. Et puis, il verse une commission, évidemment, au banquier pour le service rendu, mais qui n'est pas au niveau de ce que l'impôt aurait prélevé. C'est une sorte de prêt d'action, si vous voulez, au moment du versement du dividende, pour ne pas payer l'impôt et, effectivement, éviter la casse fisc. Alors, après, on demande aux grands spécialistes ce qu'ils pensent de cette pratique. Et alors, là, je dois reconnaître que les arguments sont toujours les mêmes. C'est toujours la même chose. Oui, c'est une pratique nécessaire parce que je n'achète pas l'argumentaire. Ça permet de fluidifier le marché. Il faut absolument la conserver parce que c'est comme ça qu'on finance nos entreprises. Ah, et puis si on ne le faisait pas chez nous, d'autres le feront, donc nos banques seront désavantagées par leurs concurrentes étrangères. Les arguments classiques qu'on entend pour nous expliquer qu'un dispositif qui, objectivement, est quand même un peu tiré par les cheveux, parce que l'objectif, évidemment, c'est de contourner l'impôt, hein, c'est pas d'optimiser le financement des entreprises françaises. Et c'est un des arguments de fluidité du marché pour essayer d'expliquer ce genre de truc. C'est un peu entendu et rebattu. Hein.
Qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Alors, on va avoir une grande bataille juridique pour savoir si on est sur quelque chose qui est illégal ou légal. Pour le parquet national financier, il est clair que c'est de la fraude fiscale. Et ils sont décidés à attaquer les établissements bancaires, partant du principe que cette pratique du cum-cum, c'est pour échapper à l'impôt. Le camp d'en face va expliquer qu'on est en zone grise. Et qu'on peut considérer qu'on est sur de l'optimisation fiscale. Et il faut reconnaître que la guerre risque d'exister. Le sénateur PS, président de la commission des finances au Sénat, qui s'appelle Claude Raynal, reconnaissait en 2021 qu'on était un peu à la frontière, effectivement. À la frontière de ce qui serait de la fraude fiscale ou ce qui serait de l'optimisation fiscale. Ça va être complexe d'arriver à une solution définitive. Après, l'enquête va se poursuivre. Il y a quand même toutes les informations collectées hier qui doivent nourrir l'enquête. Il y aura certainement des auditions. Alors, c'est un montage qui n'est pas neuf, l'histoire. Ça a été dénoncé en 2018 par 16 médias internationaux. Ils avaient chiffré à l'époque, sur une période de 20 ans, concernant 10 pays, que ça représentait un manque à gagner, sur 20 ans pour 10 pays, de 140 milliards d'euros. En France, on nous dit que les banques françaises, mais l'histoire encore n'est pas terminée, peuvent écoper un peu plus d'un milliard de redressement fiscal. Là-dessus peut s'ajouter une amende pour fraude fiscale aggravée, de fraude fiscale aggravée, c'est ça le chef d'inculpation, qui peut atteindre jusqu'à 50% du montant de l'impôt qui n'a pas été payé. Et puis il peut aussi y avoir des peines de prison directement visant des responsables. Mmh. Ça s'est vu en Allemagne. Il y a un avocat fiscaliste qui a pris 8 ans de prison avec cette histoire. Il y a une enquête du même type qui est ouverte au pénal contre ABN AMRO aux Pays-Bas. Il y a de grandes chances que l'histoire chez nous se solde devant le tribunal correctionnel et très probablement avec un règlement à l'amiable, puisque la loi Sapin 2 de 2016 a rendu possible le règlement à l'amiable. Voilà l'histoire du cum-cum.
Eh bien, on suivra tout ça. Merci Nicolas.
L'unité du marché.
Nicolas Dose et la polémique du jour. Le marché parisien, lui, reste à la hausse, plus 1,16%. On regarde tout de suite le détail.
Votre rendez-vous avec Prime Alliance, expert SCPI et épargne immobilière pour les particuliers et professionnels du patrimoine.
Du vert donc, et un CAC 40 qui est en hausse et en progression sur son ouverture, puisqu'on était tout à l'heure au plus bas vers les 7125 points, déjà dans le vert, mais pour le moment on s'approche des 7180 points, 7171 points. C'est une hausse d'un peu plus d'un pour cent, 1,16% très exactement. Ailleurs en Europe, la tendance est assez similaire, peut-être un petit peu de retard sur l'Eurostox 50, mais enfin c'est pas significatif, puisque pour le moment l'Eurostock 50 gagne 0,8%. Du côté des principaux arbitrages, avec un marché en hausse de plus d'1%, forcément il y a énormément de valeurs dans le vert, dont ST Micro, plus forte hausse à 46,76, plus 5,06, Publicis et Kering qui complètent le tiers, c'est gagnant, et une seule valeur dans le rouge pour le CAC, c'est Orange qui perd 0,2% à 10,83€. L'eurodoll est à 1,0833.
BFM Business, BFM Patrimoine, le Club Immo.
Retour autour de la table du Club Immo avec ce matin en plateau Marie-Cœur de Roy, Barbara Kirali et Sylvain Lévy-Valenzi. Tout le monde est prêt ? On redémarre avec vous. Bon, on était en train de parler un peu de rénovation, etc., de verdissement finalement. Qu'est-ce qu'on peut dire justement de ces immeubles qui sont verts et la taxe, enfin, il y a du greenwashing aussi ou pas ?
À peine.
Hein,
à peine un chouïa, un chouï, comme on dirait chez moi. En Europe, il y a la taxonomie. La taxonomie, c'est un règlement européen qui vise à classer les activités vertes en fonction de 6 objectifs. Les 6 objectifs, c'est l'atténuation du changement climatique, l'adaptation au changement climatique, la préservation de l'eau, le développement de l'économie circulaire, la lutte contre la pollution et la préservation de la biodiversité. Depuis le 1er janvier, toute entreprise de plus de 250 salariés et plus de 40 millions de chiffres d'affaires ou plus de 20 millions d'euros de bilan a l'obligation d'identifier ses activités dites vertes. Au regard de la taxonomie, elle fait comment ? Elle publie un rapport qui dit la part du chiffre d'affaires qui est alignée à la taxonomie, la part des investissements et la part des dépenses. Jusque-là, tout va bien. En quoi ça intéresse l'immobilier ? C'est parce que l'immobilier, c'est pas très vert. À l'échelle de l'Union européenne, c'est 40% des consommations énergétiques et 36% des émissions carbone. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les financeurs et les assureurs de l'immobilier vont vouloir en savoir un petit peu plus sur les actifs qu'ils financent et qu'ils assurent. L'immobilier va donc devoir montrer patte verte. Et donc, il va falloir un petit peu faire preuve de transparence parce que tous ces acteurs, financeurs et assureurs vont vouloir rentrer dans la machine. Alors on pourrait se dire, il y a les labels, hein. Sauf que le problème, c'est que les labels et les certifications, elles sont pas forcément alignées à la taxonomie. Pourquoi ? Déjà parce que parfois, ils calculent pas de la même façon sur des items bien précis, ou alors l'item qui est fléché par la taxonomie n'est pas du tout pris en compte par le label.
Ce que vous voulez dire, c'est que j'achète un immeuble
parce
qu'il a le label. Et finalement, je me retrouve avec un produit qui n'est pas forcément
considéré comme vert.
Alors, chaque label a...
Parce que chaque label a ses propres grilles d'analyse. Et parce que dans les grilles d'analyse, la méthodologie qui permet d'atteindre l'objectif, donc de compter concrètement, la taxonomie, elle va vérifier que la consommation d'eau, elle va vérifier la consommation d'eau auprès de chaque équipement. Okay ? Alors qu'il y a certains labels qui regardent la consommation d'eau à global, l'immeuble en fonction de l'usager moyen, enfin du nombre d'usagers moyens dans l'immeuble. Vous voyez, donc il va falloir aligner. Et puis après, il y a aussi des items comme l'adaptation au changement climatique qui sont pas forcément traités par les labels parce que l'adaptation au changement climatique, c'était pas il y a un sujet il y a 7-8 ans, en tout cas pas pour les labellisateurs et les certificateurs. Donc il y a ce sujet-là qui est en train d'être mis en place sur le marché. Et du coup, ça déstabilise un peu tout le monde. Ça déstabilise parce que il y a Citowi, donc une petite start-up qui a mené son enquête et qui a fait un sondage auprès des acteurs de l'immobilier. 67% des sondés, donc ce sont des financeurs, assureurs, gestionnaires de patrimoine, des grands propriétaires, 67% des sondés estiment qu'un immeuble vert risque une décote jusqu'à 30% de sa valeur à cause de la taxonomie. Il y a une étude CBRE qui a été publiée en février 2023. 81% des investisseurs à l'échelle européenne veulent systématiser les critères ESG, les critères de la taxonomie, dans leur stratégie patrimoniale. Et ce qui se passe, c'est que en ce moment, à cause de l'incertitude macroéconomique, politique, mais aussi de ces règlements européens, il y a 51% des investisseurs en France qui comptent acheter moins en 2023 qu'en 2022 et 44% qui comptent vendre moins en 2023 qu'en 2022. Alors qu'est-ce qu'on fait ?
Oui, On essaie d'aligner tout le monde ou
on
pas
On essaie d'aligner tout le monde avec son label. On essaie de faire le tri dans sa data. Parce qu'il y a eu beaucoup de PropTech qui se sont développés ces dernières années en vous disant, moi, je vous fais remonter la data, je vous dis combien est-ce que vous consommez, je vous dis combien est-ce que vous émettez de carbone. Sauf que si on regarde un petit peu, quand les directeurs RSE rentrent dans la machine, ils se rendent compte qu'il y a des périodes qui peuvent manquer et qu'il y a des périodes de temps. Et puis, il y a des surfaces qui peuvent manquer parce que quand un immeuble est multilocataire, si le locataire ne donne pas le mandat pour pouvoir aller toper la data, j'ai pas la data. Donc il va falloir fiabiliser toutes ces données. Il y a un gros travail de fiabilisation. Il y a aussi un travail de langage commun. Il y a une grille d'analyse qui a été éditée par l'AFREXIM. L'AFREXIM, c'est l'Association française des sociétés d'expertise immobilière. C'est les GLL, les CBRE, pour ne citer qu'un. Qui a mis au point donc une grille d'analyse. Ils l'ont faite avec les professionnels. Il y a une vingtaine d'items et ils donnent.
Donc là, tout le monde compte pareil.
Voilà, et ils donnent des points en disant qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui fait que cet immeuble sera vert pour vous. On voit que ce qui est prioritaire pour les investisseurs, c'est la consommation d'énergie primaire, les émissions de gaz à effet de serre. L'existence d'un certificat éco-énergie tertiaire, ça c'est le certificat qui permet l'alignement au décret tertiaire, et une trajectoire carbone de l'immeuble. Ce qui n'est pas pondéré ou moins pondéré, les activités des occupants. Je peux avoir un immeuble hyper vert et héberger un occupant très pollueur, genre un pétrolier, ça fonctionne, ça passe, tout le monde s'en fiche. La gestion de la ressource de l'eau, la gestion des déchets, les services rendus aux occupants. C'est vrai qu'on a vu beaucoup d'immeubles proposer beaucoup de services, ça globalement on s'en fiche, hein, mais si on vous apporte votre panier paysan, c'est pas ça qui va faire que l'immeuble est vert.
C'est tout à fait le genre de Cédric. Ça.
Tous les jours.
Bah, j'ai un panier paysan. Mais il n'est pas porté au bureau. Et la certification par un label de la préservation de la biodiversité, alors ça, tout le monde s'en fiche aussi, c'est pas du tout pondéré. Donc, ce que la Frexime dit, c'est que cette grille a la vocation à être un petit peu stable dans le temps, mais qu'évidemment, les items vont évoluer et qu'ils ne doutent pas que les ressources en eau, les déchets et la biodiversité, ce sont des enjeux qui vont monter et que ce sera de plus en plus pondéré par le marché. Et ensuite, le dernier axe de travail, c'est la stratégie que vous voulez développer sur votre actif et en propre par votre activité. Ce que disaient les établissements bancaires lors d'un webinaire de la FPI qui a eu lieu la semaine passée, ils disaient qu'ils allaient rentrer dans les machines pour vraiment regarder le programme. Est-ce qu'il est vraiment vert? Et on vérifie si c'est vraiment vert et ça correspond à ce qu'on attend de lui. Et surtout, on regarde la trajectoire de l'acteur qu'on finance. Où est-ce qu'il veut amener son actif et où est-ce que lui, il veut aller?
La taxonomie, c'est vraiment un sujet,
moi, je trouve ça passionnant parce que c'est passionnant en train de bousculer toutes les idées reçues.
Bah, c'est surtout la valeur verte en fait qui
est en train d'émerger.
Large.
En fait, ce qui émerge, c'est la décote.
On a du mal, surtout les actifs d'ailleurs, qu'on a eu du mal
à quantifier.
Mais on ne la quantifie pas, on quantifie la décote.
Mais ceci dit, c'est intéressant, c'est le lien entre la finance. C'est-à-dire que ce sont des ratios extra-financiers. C'est-à-dire que la taxonomie fixe des ratios extra-financiers. Je prends juste l'exemple de Gecina qui avait converti son portefeuille obligataire en green bond, son obligation verte, assis sur des classes d'actifs immobilières. La taxonomie va répondre à cela. Il n'y a plus un financeur aujourd'hui qui financera des projets immobiliers s'ils ne répondent pas à ces éléments de taxonomie. La seule problématique, effectivement, comme le disait Barbara, c'est l'interopérabilité. Tous les standards de comptage, par exemple, les standards de comptage ne sont pas du tout unifiés. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un projet, d'ailleurs, je ne sais pas si tu es au courant, c'est BNP Paribas Real Estate qui le mène avec la PROMA, de créer une alliance immobilière pour la convergence numérique, avec des règles uniformes de comptage qui, effectivement, permettront d'identifier a posteriori quelle est la trajectoire carbone des immeubles. Je pense que là, du coup, on va aller sur une finance beaucoup plus vertueuse. D'ailleurs, c'est Guillaume Sommerer qui avait publié un livre sur la finance verte et qui avait déjà anticipé le mouvement par rapport à la taxonomie. Le deuxième point, c'est le...
Sylvain, il fait de la pub pour vous.
Non, mais
il est bon. On l'a payé juste avant.
On avait fait un billet. Guillaume qui met toujours un petit billet dans le...
dans le livre. Achetez le livre de Guillaume, il y a toujours un petit billet dans son livre.
Toujours acheter le petit billet. En fait, la lutte aujourd'hui est plus intéressante. On appelle ça en anglais les stranded assets, c'est-à-dire les actifs naufragés, des actifs qui sont par nature et de façon endémique qui ne pourront pas aller vers cette transition. Ils sont destinés à disparaître. Et malheureusement, effectivement, dans l'immobilier, c'est le secteur où on trouve le plus de ces actifs naufragés, comme dirait l'autre.
Voilà pour ce gros blot taxonomie verte. On se penche sur les habitants des grandes villes maintenant. Alors c'est tout autre chose, Sylvain, mais bon. Habitants qui veulent déménager dans les 12 mois.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent se barrer.
Oui, alors non seulement ils veulent se barrer, mais on avait ces meilleurs agents qui a fait une étude sur le moral des Français. en leur disant qu'est-ce que vous envisageriez si vous vouliez quitter votre ville.
D'accord.
Et quelles sont en fait les villes où on a envie de partir. Quelles sont les premières villes que vous aimeriez quitter, dans l'ordre. Vous mettriez quelle ville en premier?
Ouais, je la connais, la réponse.
Mais voilà, moi aussi.
Vous trichez, mais il y a une surprise.
C'est Lille.
C'est pas Paris.
Alors, c'est Lille. Non, mais on aurait pu penser.
Oui, on aurait pu penser.
Avec l'air sain qu'on respire à Paris, on aurait très bien pu penser que ce soit Paris. Mais non, c'est Lille pour 70% des Lillois qui veulent aller pas très loin de chez eux.
Donc, c'est 7 habitants de Lille sur 10 veulent
quitter Lille dans les 12 mois. Pour aller dans des petites villes de proximité, c'est pas un exode vers le rural, c'est un exode vers des villes de proximité, avec le premier critère, c'est le calme, l'espace, et bien évidemment, le pouvoir d'achat, puisque le pouvoir d'achat détermine l'espace. En cœur de ville, ça devient tout simplement impossible de se loger. 70%, 66% à Rennes, suivi de Lyon avec 63%, et Paris arrive en 9e position avec 40%.
Ouais, mais alors justement, donc on a tous vu l'étude de Meilleurs Agents, et ce qui est intéressant, c'est quand effectivement la querelle à l'évolution des prix, et on voit que finalement des grandes villes analysées, c'est Paris où la hausse des prix, c'est horrible, ce que je veux dire, a été la moins forte.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Parisiens sont déjà... On se souvient, 12 000 et quelques...
Oui, alors en fait...
Les Parisiens sont déjà partis dans les villes, là?
Non, parce que moi je pense pas que ce soit précisément ça, je pense que vraiment il y a une question d'orientation des prix. Et d'ailleurs, on a vu, et c'est le côté un petit peu sain, c'est-à-dire que depuis 2-3 ans que les prix baissent à Paris, on voit que le nombre de transactions remonte fortement. Ce qui veut bien dire qu'à un moment donné, c'était trop cher. Peut-être qu'aujourd'hui... Bon, c'est horrible. Encore une fois, je rappelle à ceux qui nous écoutent que je ne peux toujours pas acheter à Paris. Donc, je ne suis pas en train de dire que 10 000 euros du mètre carré, c'est
un généreux donateur.
Je vais faire une cagnotte, Litchi. Mais au-delà de ça, ce que je suis en train de dire, c'est qu'effectivement, on voit bien la corrélation entre le fait que, le pouvoir d'achat est... Enfin, c'est ça le truc. C'est que Paris, si je regarde sur 5 ans, Paris, la hausse des prix de mémoire, je ne vais pas dire de grosses bêtises, mais elle est de l'ordre de 10%. On est à 25% à Lille et on doit être à 55-60% à Rennes.
Donc,
forcément, ça fait que les locaux, ils s'en vont en fait. Et alors, ce que disait Sylvain est très très juste, c'est que c'est pas l'exode urbain dont on a parlé. C'est la preuve que finalement, c'est aussi surtout une question de pouvoir d'achat. C'est qu'en fait, ils restent dans la région en fait, et souvent même dans l'agglomération, parce que simplement, ils arrivent plus à acheter là où ils vivent et donc ou là où ils travaillent, et donc du coup, ils s'éloignent petit à petit.
Il y a un facteur qui est à intégrer, c'est-à-dire que effectivement, cette volonté d'avoir plus de calme, plus d'espace, effectivement. La perte du pouvoir d'achat a beaucoup incité, et dans l'étude, il y a aussi une autre étude qui a montré est-ce que ça vaut la peine de continuer à payer son loyer à fonds perdu plutôt que d'acheter. Et le pari des villes moyennes, justement, pour les personnes qui veulent quitter, leur permettrait de basculer du statut de locataire au statut de propriétaire. Et en fait, c'est le cas pour 20% des 51 grandes villes de France. Et donc, en fait, il y a eu des expertises qui ont été faites sur... à périmètre constant et à loyer constant, est-ce que je pourrais acheter juste en quittant un peu l'environnement?
Et donc m'agrandir.
Alors, effectivement, on a l'exemple qui vient en premier dans cette étude, qui était celle de Mulhouse. Mais Mulhouse, forcément, ça ne donne pas forcément envie comme ça.
Il faut toujours quitter Paris.
Sur le papier, mais Saint-Étienne, qui est en pleine reconversion urbaine, qui est une très, très jolie ville, a gagné 27 mètres carrés à périmètre constant. C'est-à-dire que si vous louez au même prix que vous vouliez acheter, vous gagneriez 27 mètres carrés, parce qu'en fait, on est sur des prix au mètre carré qui sont à zone. Je prends l'exemple de Mulhouse avec 1358 euros du mètre carré, comme celui de 1450 euros pour Saint-Étienne. Avec la
réalité, je suis désolée, j'ai
la
pas...
La réalité,
j'ai
c'est que Marie veut aller à Limoges avec ces histoires-là.
À un moment donné, il faut dire la réalité. Si vous êtes dans une ville où ça vaut plus le coup d'acheter que de louer, et qu'en plus, vous gagnez des mètres carrés, c'est que globalement, il y a peu de demande, en fait, et qu'il y a peu de tension. Et s'il y a peu de tension, en termes d'attractivité, souvent, c'est corrélé, en fait.
C'est pour ça qu'il y a, à mon avis, une ambition qui est intéressante dans le développement des villes.
Ouais, et puis en plus,
Moi, je suis originaire de Lyon, donc je connais bien Saint-Étienne, j'y allais régulièrement. J'ai vu cette ville se transformer. Effectivement, c'est pas une ville aujourd'hui qui avait été démographiquement positive, mais aujourd'hui, avec la reconversion urbaine, c'est des villes qui tirent leur épingle du jeu. Mais je peux prendre l'exemple de Roubaix, qui est en pleine transformation et qui est à une encablure.
Moi, je trouve que le meilleur exemple, ça reste Angers, et la preuve est qu'aujourd'hui, Angers, c'est plus acceptable en termes de prix. en fait, oui. pour les locaux. C'est-à-dire que voilà, aujourd'hui, on voit vraiment des villes qui, à un moment donné, étaient plus intéressantes financièrement à acheter qu'à louer, et qui aujourd'hui ne le sont plus compte tenu de leur dynamisme et de leur transformation.
Allez, il nous reste 1 minute 48 pour laisser la parole à Barbara.
Pour une toute petite innovation, non, une grande innovation.
Une grande innovation.
À propos de la taxonomie verte.
Non, mais c'est vrai, j'adore ces sujets-là. Donc,
mais oui, c'est pour ça que j'ai pensé à vous.
J'aime bien tout, les matériaux, les trucs, les innovations, ça me passionne.
Il aime bien avoir les mains dans le béton.
Voilà, exactement.
Alors, justement, en parlant de béton, il y a Séquence, qui est un bailleur social francilien, qui a noué un partenariat avec Holcim pour développer Recinégie. Recinégie, c'est un programme immobilier qui va être livré à Gennevilliers dans le 92. 200 logements sur deux bâtiments de 5 et 6 niveaux chacun. Et la particularité de ce programme immobilier, c'est que les 1 600 m3 de béton qui vont permettre de couler la suprastructure, grosso modo tout ce qui est au-dessus de la terre, hein, les quatre murs. Pas les fondations. Ce sera du béton 100% recyclé.
Et ça, c'est quoi du béton 100% recyclé?
Ben, c'est du béton. Alors, pour faire du béton, j'ai regardé la recette. Il faut 80...
Prenez.
Il faut 80% de sable, de granulats et de gravillons. Ces 80%, ça va représenter 2200 tonnes en tout. Et donc, ces 2200 tonnes, ça va venir de centrales à béton parisiennes et de chantiers de démolition. Donc, ils ne vont pas aller extraire les granulats, dans la terre. Ce sera tout récupéré. Il faut 11% de ciment. Alors, ce qui pose problème dans le ciment, c'est le clinker. 100% du clinker, il va être utilisé pour ce ciment-là. Ça va être issu de coproduits de l'industrie. Donc, c'est 2000 tonnes de clinker qui seront issues de cendres de bois, de déchets de traitement minéraux. Ils ont gardé leur recette. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dans leur clinker, mais globalement, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et puis, il faut 9% d'eau. Donc, toute cette eau, elle sera exclusivement issue des eaux de process. Les eaux de process, c'est quoi? C'est les eaux qui permettent de nettoyer les centrales, les équipements, et les centrales à béton, les équipements. Ils ont aussi développé des bassins de rétention pour récupérer les eaux de pluie. Ces eaux de pluie, elles ont permis de nettoyer les centrales, et l'eau des centrales qui a été nettoyée, elle a été refiltrée et réinjectée dans ce béton. Et il y a 0,1% d'adjuvants. Donc, le premier coulage de Synergie aura lieu en avril, et la livraison est prévue pour le dernier trimestre 2024. Et j'ai fini.
Eh bien, c'est parfait.
C'est du béton bas carbone. Comme quoi, on peut faire du béton bas carbone.
On va arrêter de dire que le ciment ment, du coup. merci à tous les trois d'avoir participé à ces échanges. Et puis, allez, la petite minute conseil, la saison de déclaration 2022 des revenus approche à grands pas, et on a désormais les dates. Rien de révolutionnaire. 13 avril, ouverture du service de la déclaration en ligne. Ensuite, les dates de clôture s'échelonnent en fonction de vos départements. Vous en avez l'habitude. Et si vous ne pouvez pas le faire par le site, le dépôt de la déclaration papier, c'est le 22 mai 2023 inclus, cachet de la poste faisant foi.
Ou vous envoyez à Cédric Decoeur, il s'en occupe.
Non, merci. Allez, dans un instant, on retrouve les marchés et Regard Croisé est à suivre.
BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business.